Travailleurs, camarades et amis, c'est mon premier voyage en Guadeloupe. J'en suis ravie et je suis particulièrement fière de le faire non pas en touriste, mais en communiste révolutionnaire qui vient saluer ses camarades de combat ouvrier et défendre toutes ses idées que nous avons en commun auprès des travailleurs des Antilles. Depuis mon arrivée, je vais de découverte en découverte. Oh, la banane et le sucre, ce n'est bien sûr pas une découverte pour moi. Ça fait partie de mon quotidien, comme des millions de femmes et d'hommes. Mais de voir ce que cela signifie de travail, d'opérations différentes, de labeur et de peine pour les travailleurs qui les produisent, c'est autre chose. J'ai vu le travail des ouvriers de la sucrerie Gardel. J'ai discuté avec les ouvriers de la banane qui s'échinent toute la journée à ramasser des régimes de 50, 60, 70 kilos. Et je vous garantis que pour moi, le sucre ou la banane, ça n'aura plus tout à fait le même goût. Que ce soit les travailleurs de la sucrerie, les ouvriers de la banane, les employés de la sécurité sociale, de Carrefour, tous m'ont parlé des salaires trop bas, des heures supplémentaires non payées, de l'arrogance et de la répression patronale, de la crainte de ne pas avoir de retraite. Alors il y a une chose de sûre, c'est que les travailleurs de la Guadeloupe sont confrontés aux mêmes problèmes que ceux de France. En pire, parce que le chômage, les petits boulots, la cherté des prix atteignent ici des nouveaux records, et parce qu'au mépris patronal s'ajoute le mépris raciste hérité de l'esclavage et du colonialisme. Mais ce sont fondamentalement les mêmes problèmes, les mêmes revendications, les mêmes objectifs urgents et le même combat à mener. Il y a 9 mois, l'écrasante majorité des travailleurs a voulu se débarrasser de Sarkozy. Ce n'est pas que Hollande soulevait l'enthousiasme, c'est simplement que beaucoup de travailleurs pensaient qu'avec Hollande, cela ne pouvait pas être pire. Eh bien si, avec Hollande, c'est pire. Cela ne tient pas à la personne de Hollande, cela ne tient pas à son caractère, mais au contexte, à la crise et au fait que dans cette période, eh bien le patronat est de plus en plus agressif. Le patronat ne prenait déjà pas beaucoup de gants sous Sarkozy. Mais avec Hollande, il y va à cœur joie. Alors oui, c'est pire parce que les licenciements se multiplient, parce que la jeunesse reste condamnée au chômage, parce que les prix continuent de monter, parce que même les services publics continuent d'être démantelés. Le gouvernement dit aux travailleurs qu'il faut lui laisser du temps, qu'il ne peut pas tout faire tout de suite. Mais il a trouvé le temps de concocter un plan d'austérité drastique. Il a trouvé le temps de faire 20 milliards de cadeaux au patronat au nom de la compétitivité. Qu'est-ce qu'il a fait pour les travailleurs? Il n'a même pas été capable d'augmenter le SMIC, parce que 0,3% d'augmentation sur le SMIC, ce n'est pas une augmentation, c'est de la provocation. Et puis dans le même temps, le gouvernement a quand même autorisé une augmentation de 2,4% pour les tarifs du gaz, de 2,5% pour l'électricité. Autrement dit, il a décidé l'appauvrissement de tous les smicards. Et regardez comment le gouvernement prétendument de gauche se conduit avec ses propres travailleurs. Il se conduit comme n'importe quel patron. Il bloque les salaires, supprime des emplois, demande aux travailleurs qui restent de faire le travail de ceux qui sont partis. L'ensemble de la France compte 8,5 millions de pauvres. Combien parmi eux travaillent dans l'administration, dans l'éducation, dans les hôpitaux ou dans les collectivités locales? L'État patron s'y connaît en un rayon en matière de petits salaires, de temps partiel et de contrats précaires. Et il n'y a pas de différence, là encore, entre la droite et la gauche. En 10 mois au pouvoir, le gouvernement dit socialiste n'a rien fait pour les travailleurs. En revanche, il a fait beaucoup contre les travailleurs. La droite a à son actif bien des ignominies. Par exemple, mais ce n'est qu'un exemple, la taxation des indemnités des accidents du travail. Autre exemple, le forfait de 35 euros qu'il faut payer pour aller, par exemple, au prud'homme. Enfin, je ne vais pas en faire la liste, elle serait trop longue. Eh bien, non seulement le gouvernement socialiste ne les supprime pas, mais il est en train de préparer ses propres ignominies. Parce que les 60 milliards de coupes budgétaires qui sont prévues sur les 5 prochaines années il les prendra bien quelque part. Combien de suppressions d'emplois seront encore programmées dans les hôpitaux? Combien de communes manqueront d'argent pour restaurer les écoles ou pour aider les familles à payer la cantine? Combien de départements réduiront leurs aides sociales? À cela s'ajoutent les hausses d'impôts, les hausses de taxes que tout le monde paiera, et bien sûr la hausse de la TVA qui entrera en vigueur en 2014 mais qui est bel et bien décidée. Cette hausse de la TVA est un reniement grossier de la part de Hollande, parce que pendant toute sa campagne, Hollande avait promis, juré, que justement il ne l'augmenterait pas. Eh bien voilà qu'il l'a fait. Alors, on entend beaucoup les riches se plaindre. Ils se plaignent d'avoir à payer plus d'impôts, et on n'entend qu'eux. Mais avec l'air de ne pas y toucher, le gouvernement fait les poches des classes populaires, aussi bien que ne le faisait Sarkozy. Alors oui, le style a changé avec Hollande. Il y a moins d'arrogance, mais il y a plus d'hypocrisie, plus de mensonges, plus de tromperies. Alors ce que j'ai à dire aux travailleurs, et à tous les militants, c'est ne vous laissez pas désarmer par ce gouvernement qui se dit de gauche, mais qui mène une politique de droite. Ce n'est pas parce que le Parti Socialiste est arrivé au pouvoir qu'il faut se laisser faire. On nous dit qu'il faut attendre des jours meilleurs, parce que c'est la crise. C'est indiscutable, c'est la crise. Mais est-ce que c'est la crise pour les Ayotte, les Despointes, les De Rênal? Est-ce que c'est la crise pour ceux qui contrôlent l'import-export, pour ceux qui contrôlent toutes ces chaînes hôtelières? Est-ce que c'est la crise pour Peugeot, pour Bettencourt? Est-ce que leur fortune recule? Non, bien sûr, leurs descendants ont encore de beaux jours devant eux. Mais pas les travailleurs qu'ils écrasent avec des salaires toujours plus bas, pas les travailleurs qu'ils condamnent au chômage. À la différence de la France, ce ne sont pas des usines avec des milliers de travailleurs qui ferment ici en Guadeloupe. Il n'y en a pas. Donc elles ne peuvent pas fermer. Mais combien de petites entreprises, combien de petits magasins, de restaurants ont fermé leurs portes en licenciant 10, 20, 30 salariés, comme l'a fait par exemple Hippopotamus? Et combien d'autres menacent de le faire, comme c'est le cas de Carrefour ou des concessionnaires de l'automobile? Alors on nous dit que ce sont surtout des petites entreprises et qu'elles ne peuvent pas faire autrement. C'est peut-être des petites entreprises, mais souvent elles dépendent des mêmes patrons béquets ou elles appartiennent à de grandes chaînes qui ont de quoi voir venir, mais qui ne veulent pas que leur rentabilité et leur profit baissent, et pour les préserver, eh bien elles mènent une guerre aux travailleurs. La lutte de classe, c'est le quotidien de tous les travailleurs dans la société capitaliste. Le patron se bat pour imposer des heures supplémentaires non payées, le travailleur se bat pour se les faire payer. Le patron fait tout pour augmenter le temps de travail, réduire les pauses, augmenter la charge de travail, les travailleurs se battent contre. C'est une lutte quotidienne. Mais avec la crise, les patrons sont de plus en plus agressifs, parce que les profits n'augmentent plus et parce que le gâteau se réduit. Il ne s'agit plus pour eux de jeter quelques miettes. Il n'y a même plus de miettes. Alors il faut que l'un des deux recule. Il faut que l'un des deux se sacrifie. Il ne peut pas y avoir de demi-mesure. C'est eux ou c'est nous. Et tous ceux qui nous font croire, comme le fait le gouvernement socialiste, que l'on peut ménager et les uns et les autres, sont des menteurs qui désarment les travailleurs. Il y a une guerre de classe. Eh bien, il faut que les travailleurs rendent les coups. Le gouvernement n'est pas seulement passif devant ces attaques patronales. Il en est le complice. Et il les justifie. Et il les facilite. Prenez les accords de flexibilité que le patronat et certains syndicats ont signés il y a une quinzaine de jours et que le gouvernement s'est engagé à traduire dans une loi. Eh bien, c'est une régression historique. On nous dit que les patrons ont fait des concessions, mais il suffit de gratter un tout petit peu pour se rendre compte du traquenard. Prenez la promesse de la généralisation des complémentaires santé à tous les salariés. Eh bien, il faudra que les travailleurs en payent la moitié, sans pouvoir les choisir. Prenez la taxation des contrats courts, censée freiner la précarité. Les missions suppressions d'intérim, les remplacements de salariés malades et de congés maternité ne sont même pas concernés par cette taxation. Alors à quoi ça rime? Quant au droit à l'assurance chômage rechargeable, le patron peut jouer au grand seigneur, ce sont nos cotisations chômage qui les payent. Si on ne nous dit pas dans quelques mois qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses et que de toute façon on va diminuer ces indemnités chômage. Alors non, il ne s'agit sûrement pas d'un accord donnant-donnant où les deux camps sortent gagnants. C'est une charge sans précédent contre les travailleurs. Le patronat n'avait déjà pas beaucoup de contraintes. Eh bien, il en aura encore moins. Il pourra licencier plus vite, il pourra licencier moins cher, il pourra baisser le temps de travail et baisser les salaires en fonction de ses affaires. Il pourra imposer la mobilité. S'il n'y a pas de travail sur un site, les ouvriers devront faire 20 à 50 km pour aller travailler ailleurs. Aujourd'hui, en France, toutes les grandes entreprises font ce chantage aux travailleurs. Chez Renault, par exemple, les travailleurs sont forcés de choisir entre des baisses de salaire, une mutation à l'autre bout du pays, un allongement de la durée du travail, la suppression de RTT ou le licenciement, ou la fermeture d'usines. Ici, les travailleurs de la banane m'ont raconté le travail à la tâche. Les patrons qui le matin disent aux travailleurs « Tu ne pars pas tant que le travail n'est pas fini, tant que le travail n'est pas terminé ». Eh bien, avec ces accords, c'est le retour du travail à la tâche, où les travailleurs doivent être à la disposition du patronat. C'est l'esclavage salarié, au sens propre du terme. Alors ce chantage patronal et ce nouvel esclavage salarié est justifié. Il est cautionné par le gouvernement qui va le rendre tout à fait légal. Le Parti Socialiste au gouvernement vient de donner une nouvelle arme au patronat. Alors non, ce ne sont pas des amis que nous avons au gouvernement, ce sont des ennemis et qu'il faut combattre comme tels. Et comment ne pas être révolté par la politique du gouvernement en matière de lutte contre le chômage? Tout ce qu'il sait faire, c'est arroser le patronat à coups de milliards et de croiser les doigts pour qu'il veuille bien embaucher. Et Hollande n'y est pas allé de main morte. Il a fait 20 milliards de cadeaux au patronat, au nom de cette bataille pour l'emploi. Mais cela fait des années que ça dure, des années que tous les gouvernements font cadeau sur cadeau au patronat, au nom de la lutte contre le chômage. C'est 175 milliards d'exonérations, de subventions en tout genre que les patrons touchent chaque année. Et cet argent, eh bien, il est dilapidé. Il est dilapidé, mais on attend toujours les emplois. C'est une chanson que vous connaissez bien ici, puisque chaque année, le gouvernement fait cadeau de 5 milliards de niches fiscales à ceux qui investissent dans les DOM, au prétexte, justement, de créer des emplois. Mais où sont les emplois? C'est de l'argent qui nous est volé. C'est de l'argent qui nous est volé parce qu'avec cet argent, combien d'emplois auraient pu être créés ici, en Guadeloupe? Si l'État lui-même s'était lancé dans la construction de logements, par exemple, s'il s'était lancé dans la construction d'équipements publics, s'il avait embauché dans les hôpitaux, dans les écoles, au lieu d'être utile, cet argent est dilapidé dans des yachts de luxe, dans des hôtels, et il finit sur des coffres-forts en Suisse ou en Belgique, que ce soit les comptes en banque de riches béquets ou des bourgeois de France. Et le pire, c'est qu'à la place d'embauche, on a des licenciements. Parce que toutes les grandes entreprises capitalistes qui licencient aujourd'hui, Peugeot, Renault, Sanofi, Mittal, SFR, les banques, la distribution, vont recevoir des dizaines de millions d'euros au nom de la lutte contre le chômage. C'est vraiment, vraiment se moquer des travailleurs et des chômeurs. Alors, après 9 mois de gouvernement, la messe est dite, diraient certains. Ce gouvernement ne fera rien pour les travailleurs. Il ne fera rien pour lutter contre les bas salaires, rien pour résorber la misère et rien contre le chômage. Il n'y a pas de quoi se décourager, pas de quoi baisser les bras, mais il faut regarder la réalité en face. Ces gens-là ne sont pas de notre côté. Les travailleurs qui se battent pour leur salaire, pour garder leurs primes, pour refuser la dégradation des conditions de travail ont mille fois raison. C'est un combat légitime. Ce sont les travailleurs qui font tout. Ce sont eux qui sont à l'origine de toutes les richesses. Eux qui font fonctionner la société. Leur combat n'est pas un combat égoïste ni corporatiste, car les travailleurs sont à l'origine de toutes ces richesses et c'est eux qui représentent l'avenir de la société. Les familles de riches béquets peuvent disparaître. Avec les actionnaires de la métropole, la société continuera de tourner grâce aux travailleurs. Les privilégiés et les parasites qui mènent un combat égoïste, ce sont eux. Si je suis communiste, comme mes camarades de combat ouvrier, c'est que nous n'acceptons pas qu'une minorité s'enrichisse au travers de l'exploitation de la population laborieuse. C'est parce que nous n'acceptons pas le pouvoir qu'ils ont sur la vie des travailleurs. Ces gens-là ont le pouvoir sur les travailleurs et sur toute l'économie parce qu'ils sont riches, parce qu'ils possèdent les capitaux. Mais d'où viennent ces fortunes? Ici, vous le savez mieux que moi, les fortunes qui dominent encore sont celles des familles coloniales qui n'ont eu qu'à savoir manier le fouet pour s'enrichir sur le dos, sur la sueur et sur le sang des esclaves. Mais l'argent des grands capitalistes de métropole n'est pas beaucoup plus propre, vous savez. Ce sont des générations d'ouvriers qui y ont laissé leur vie, enchaînées aux machines. Alors aujourd'hui, c'est avec cet argent que les possédants dominent et dirigent toute l'économie. Et la crise le montre, eh bien ils la dirigent dans le mur. Parce que tous ces gens ne sont que des parasites qui ne voient pas plus loin que le bout de leur portefeuille. Si encore ils dirigeaient bien l'économie, s'ils investissaient dans ce qui est utile au fonctionnement de la société, mais c'est tout le contraire. Ces gens-là sont des parasites nuisibles à toute la société parce qu'ils sont aveuglés par le profit. Ils ne font pas reculer que les travailleurs. C'est toute la société qu'ils condamnent à revenir des générations en arrière. Prenez le chômage. C'est un drame pour les travailleurs plongés dans le chômage. Mais pas seulement. Le chômage pèse sur tous les travailleurs parce que les patrons s'en servent pour faire leur chantage. Et puis le chômage est une catastrophe pour toute la société. Quel peut être l'avenir d'une société qui condamne 60% de ses jeunes à l'inactivité, au désœuvrement? Quel peut être l'avenir d'une société qui ne propose à ses jeunes que des petits boulots et de se satisfaire de 400, 500 euros par mois, pendant que d'autres nous expliquent qu'il est tout à fait normal qu'ils touchent 1 million par an? Et je ne parle même pas de ce que gagnent les béquiers. Parce que là, il ne s'agit même plus d'un million par an, mais il faudrait sans doute parler d'un million par mois. C'est des fortunes d'une toute autre ampleur. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, ce chômage, les inégalités, l'exploitation, c'est aussi le terreau de l'individualisme. C'est le terreau du chacun pour soi. C'est sur ce terreau que se développe la délinquance, l'insécurité, le racisme aussi. Les conséquences de l'exploitation ne sont pas qu'économiques. On les subit à tous les moments de notre vie. Personne ne peut y échapper, même pas ceux qui ont une situation meilleure et qui sont un peu mieux payés que les autres. Alors, combattre le capitalisme, combattre le pouvoir de la bourgeoisie est une nécessité vitale pour l'ensemble des travailleurs. C'est une nécessité pour préserver la société. Oui, l'avenir de l'humanité ne peut se concevoir que débarrassé du capitalisme. L'avenir de l'humanité, c'est une société communiste, une société débarrassée de l'exploitation et de la loi du profit. Encore une fois, plus nous nous enfoncerons dans la crise, et plus le patronat et le gouvernement attaqueront les conditions de travail et les conditions de vie des travailleurs, plus la guerre de classe sera violente. Ce qui se passe en Grèce ou en Espagne doit nous servir d'avertissement. Les dirigeants sont prêts à faire reculer les travailleurs des générations en arrière. Ils n'ont pas de limites. Les seules limites seront celles que les travailleurs leur mettront. Beaucoup se demandent pourquoi les travailleurs ne sont pas encore entrés en lutte. Pourquoi il n'y a pas de mobilisation massive? Eh bien, les raisons ne manquent pas. Bien des travailleurs ont été démoralisés par les trahisons de ceux qui prétendent représenter leurs intérêts et qui, arrivés au pouvoir, mènent une politique anti-ouvrière, comme c'est le cas du Parti socialiste aujourd'hui. Beaucoup sont déboussolés et finissent par tourner le dos à la politique, aux syndicats, en se disant, eh bien finalement, c'est tous les mêmes. Et puis cela fait des années aussi qu'il n'y a pas eu de grande lutte collective. Ce n'est pas que les travailleurs ne se battent pas, ils le font ici, ils le font en France. En ce moment, les ouvriers de l'usine d'Aulnay, de PSA, de Peugeot, se sont engagés dans une grève reconductible contre la fermeture de leur usine et contre un patron de combat. Les ouvriers de Renault font des débrayages pour s'opposer au chantage de la direction. Il y a des grèves, des manifestations, mais c'est souvent le dos au mur et ce sont souvent des réactions qui restent isolées, entreprise par entreprise. Alors, ce n'est pas cela qui peut redonner confiance dans la force collective des travailleurs. Il y a donc bien des explications possibles à l'absence de lutte collective. Mais nous sommes convaincus, tôt ou tard, les travailleurs se lèveront et ils rendront les coups. Parce que les patrons ne leur laisseront pas le choix. Les travailleurs devront tout simplement sauver leur peau. Un tel mouvement ne s'annonce pas forcément. Beaucoup ici m'ont raconté ce qu'ils ont vécu en 2009, pendant cette grande grève. Ils m'ont expliqué qu'en décembre 2008, ils n'auraient jamais imaginé se retrouver plusieurs milliers à manifester et à faire grève. Certains m'ont même dit qu'ils ont commencé la grève en se disant qu'ils feraient 2 jours de grève, 3 jours, mais que ça n'irait pas plus loin. Eh bien, c'est aller plus loin. C'est aller plus loin parce que l'état d'esprit des travailleurs peut changer, et il peut changer très vite. Cela, vous le savez mieux que moi, parce que justement, vous l'avez vécu en 2009. Ce que je peux vous dire, moi, de 2009, c'est qu'à 7000 km de là, bien des travailleurs ont suivi votre combat. Et bien des travailleurs ont vibré jour après jour à votre grève. Les 44 jours de grève, les manifestations massives, les barrages, les négociations au vu et au su de tous, tout cela a été vécu par bien des travailleurs en France comme un exemple à suivre. Cette lutte est un acquis pour vous. Et cette lutte, c'est une expérience irremplaçable qui sera précieuse dans les prochaines luttes, car les luttes ne sont pas derrière nous, elles sont devant nous. La question n'est donc pas de savoir s'il y aura une explosion sociale, il y en aura une, forcément. Le problème est de tout faire pour que cette révolte soit consciente. Quel est des objectifs? Il ne suffit pas qu'il y ait des millions de travailleurs dans la rue. Il faut encore qu'ils sachent pourquoi se battre, pour quelles revendications, et qu'ils soient déterminés à aller jusqu'au bout pour les imposer. Il faut qu'ils aient une politique. C'est important de défendre cette politique aujourd'hui, de préparer les travailleurs et de populariser dès aujourd'hui un programme de lutte, car dans un tel contexte, les charlatans qui voudront emmener les travailleurs sur des voies de garage ne manqueront pas. Ce programme de lutte, je l'ai défendu avec mes camarades de lutte ouvrière et avec les camarades de combat ouvrier ici, dans la campagne présidentielle et dans la campagne des législatives. Eh bien, ce programme est toujours d'actualité. À commencer par l'interdiction des licenciements. De même qu'en hiver, on interdit aux propriétaires d'expulser les locataires. Il faut, dans cette période de crise, interdire les licenciements et forcer le patronat à répartir le travail entre tous sans diminution de salaire. Il faut forcer le patronat à répartir le travail entre tous en baissant les cadences, en diminuant les horaires, en rajoutant des temps de pause, sans diminution de salaire. Cela fera baisser la rentabilité des capitalistes? Oui, et alors? Pourquoi faudrait-il que ce soit toujours les travailleurs qui perdent de l'argent en étant mis au chômage? D'autant que quand les travailleurs perdent leur emploi, c'est pas seulement quelques sous qu'ils perdent. C'est toute leur vie qui est bouleversée. C'est les études des enfants qu'on ne peut plus payer. On ne peut plus régler ses factures. C'est le problème du logement. Alors non, c'est aux capitalistes de sacrifier une partie de leurs profits. C'est à eux d'assumer les pertes de cette économie sur leurs profits et, s'ils ne suffisent pas, sur leur fortune privée. Ce qui est bien, ce ne sont pas les travailleurs qui se sont enrichis, Mais les grands actionnaires, ces capitalistes, ces riches béquets, ce sont eux qui ont accumulé des fortunes au travers de l'exploitation. Eh bien, cet argent, il existe. Il faut qu'il serve aujourd'hui à préserver les emplois et à préserver les salaires. Parce que pour que chacun puisse vivre dignement, il faudrait des salaires au minimum à 1700 euros net. Il faudrait que le SMIC soit donc porté à 1700 euros net. Et il faudrait obtenir, surtout, qu'il augmente au même rythme que tous les prix, au même rythme que le gaz, que les loyers, que les services bancaires, au même rythme que les mutuelles. Il faudrait obtenir que tous les salaires, les minima sociaux, les retraites soient indexés réellement sur l'augmentation des prix. Et que l'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent pour cela, ce n'est pas vrai. Il faut imposer que la priorité aille aux travailleurs et pas aux millionnaires. Et puis, il faut imposer un contrôle sur les entreprises et sur les fortunes des propriétaires. D'où vient leur argent? Ils nous disent qu'ils ne peuvent pas payer les cotisations sociales et qu'un travailleur coûte cher, très cher. Mais combien lui rapporte-t-il, ce travailleur? Et ce contrôle, eh bien, il vaut aussi pour les prix. Pourquoi un produit qui arrive à 1 euro sur le port se retrouve sur les étalages à 1,50 euro, 1,80 euro? Imposer la transparence sur les comptes des entreprises permettrait de mettre au grand jour tout ce qui est volé, non seulement aux travailleurs, au travers de l'exploitation, mais aussi tout ce qui est volé aux consommateurs. Mettre en lumière la profitation comme l'exploitation capitaliste serait un premier pas pour contester le pouvoir de la classe capitaliste. Un premier pas qui permettrait aux travailleurs de prendre conscience qu'ils doivent et qu'ils peuvent eux-mêmes décider. Oui, les travailleurs sont capables de s'organiser pour se défendre, mais ils sont aussi capables de contrôler collectivement l'économie et de la diriger. Et ils le feraient mille fois mieux que tous ces capitalistes, parce que eux, ils ne seraient pas aveuglés par les profits. Et à l'échelle de toute l'économie, les travailleurs pourraient recenser collectivement les besoins, recenser les ressources et les richesses, les moyens qu'on a de les produire. Et les travailleurs pourraient faire en sorte qu'ils se correspondent. Aujourd'hui, cela est rendu impossible par le système capitaliste, parce qu'entre les deux s'interpose la loi du profit. On ne produit que ce qui rapporte suffisamment. Voilà pourquoi nous n'avons jamais eu autant de moyens de construire vite et bien. Et voilà pourquoi il manque de plus en plus de logements pour les classes populaires. Voilà pourquoi on peut faire circuler les connaissances, le savoir. Et voilà pourquoi il y a de moins en moins d'éducation. Voilà pourquoi plus on a les moyens de soigner les maladies graves, plus on sait faire des prouesses médicales, et moins les gens peuvent se soigner. L'économie capitaliste n'est pas seulement injuste, inégalitaire. C'est aussi un immense gâchis. C'est une organisation folle qui fait qu'on est en crise parce qu'on est capable de trop produire de richesses. On est aujourd'hui dans une crise de surproduction. On est en crise et toute la société s'appauvrit parce que le système produit trop de richesses. Il n'y a pas d'organisation économique plus aberrante et plus stupide. Alors non, il n'y a rien à garder dans cette économie capitaliste. Il faut une transformation profonde de cette société qui ne peut se faire qu'en expropriant la bourgeoisie et qu'en réorganisant la production sur des bases collectives, en l'organisant le plus rationnellement possible dans l'intérêt de toute la population. Seul un parti qui se revendique du pouvoir des travailleurs et de la révolution peut défendre cette politique. Mais ce parti est à construire. On voit bien que le parti qui porte encore l'étiquette socialiste est un parti bourgeois comme les autres. Quant aux partis comme celui de Mélenchon ou comme le parti communiste qui prétendent représenter une alternative à Hollande et à Ayrault, eh bien ils défendent des politiques qui ne sont guère différentes. Parce qu'ils se placent tous dans le cadre de l'économie capitaliste, en prétendant, d'accord, mieux savoir la gérer que les autres, mais ils restent dans ce cadre-là. Ils ont abandonné la perspective de combattre cette organisation économique pour la renverser. Et on les a d'ailleurs vus à l'œuvre. Le Parti communiste a déjà participé au gouvernement à plusieurs reprises, et il s'est toujours aligné sur la politique du Parti socialiste. Quant à Mélenchon, porte-voix du Front de gauche, Il a été, comme ses amis de la direction du Parti communiste, ministre, lui aussi. Et l'ambition de l'équipe qui l'entoure aujourd'hui est de prendre la place de l'équipe qui gouverne. Mais ce n'est pas pour renverser le système capitaliste, c'est pour le servir. Alors oui, il manque un parti qui représente les intérêts politiques de la classe ouvrière et qui ne représente que ces intérêts-là. Il faut un parti dévoué aux intérêts des travailleurs, un parti qui n'ait aucun lien avec le système existant, qui ne se soumette pas à sa politique, à des calculs électoraux ou à des alliances avec tel ou tel camp politique de la bourgeoisie. Il faut un parti que rien n'attache, ni sur le plan économique, ni sur le plan politique, à l'ordre social existant. Et qui non seulement ne craigne pas de mener jusqu'au bout le combat contre la classe capitaliste, mais qui, au contraire, explicitement cette volonté-là. Et il faut bien sûr que ce parti regroupe un grand nombre de militants, et qu'il soit présent dans tous les quartiers populaires, dans les entreprises, dans tous les aspects de la vie sociale. Un tel parti ne pourra agir réellement et efficacement que si la classe ouvrière, dans sa grande majorité, a envie d'agir et de mener les luttes nécessaires, parce qu'aucun parti ne peut remplacer l'action collective de millions de femmes et d'hommes. Mais le rôle de ce parti est de défendre des idées, une politique pour les travailleurs, de les populariser en permanence, bien avant que les luttes ne s'engagent. Son rôle, c'est de s'opposer à toutes les variantes de la politique bourgeoise, même celles qui se veulent de gauche. Alors oui, il faut s'atteler à la tâche, et il faut créer ce parti capable de mener, dans l'intérêt de la classe ouvrière et de la société, les combats d'aujourd'hui, qu'ils soient petits ou grands, mais aussi se préparer et s'organiser pour les grandes luttes de demain pour changer la société. Il faut opposer une politique qui arme les travailleurs et qui renforce leur position, car il ne faut pas laisser le monopole de l'opposition à la droite et à l'extrême droite. Après le psychodrame de l'UMP, on va de nouveau entendre la droite. Les dirigeants de l'UMP vont chercher à faire feu de tout bois. Vous vous souvenez de l'affaire du pain au chocolat? Vous vous souvenez peut-être de la sortie de Copé accusant les jeunes beurs de racisme anti-blanc? Je ne sais pas si Copé s'est inspiré de Ayotte ou si c'est l'inverse. Hein, Ayotte, c'était le fameux qui a poursuivi notre camarade Ghislaine Joachim Arnaud en Martinique. Mais le fait est qu'ils se ressemblent, ces gens-là, comme deux gouttes d'eau. Eh bien, on n'a pas fini de les entendre. On va les entendre et on va entendre aussi de plus en plus l'extrême droite. Et on sait que les idées de cette extrême droite sont présentes, y compris dans les rangs des travailleurs. Et on connaît les préjugés qu'elles véhiculent, les plus stupides, les plus réactionnaires. Avec l'approfondissement de la crise, il n'est pas exclu que ces idées xénophobes se développe. Il n'est pas exclu que le Front National, par exemple, ou une autre force politique d'extrême droite se développe et en vienne à intervenir physiquement contre les étrangers. Ce n'est pas exclu parce que c'est déjà le cas dans certains pays. C'est déjà le cas en Grèce, en Hongrie. Alors la droite, comme l'extrême droite, vont se sentir des ailes et elles vont s'opposer au gouvernement Hollande. Jusque-là, on ne les a vus que dans la manifestation contre le mariage homosexuel aux côtés de l'Église catholique. Mais ils ont quand même fait là une démonstration de force. Que la première grande manifestation contre Hollande vienne de ce camp, qu'elle vienne de la droite, doit être un avertissement pour les travailleurs. Parce que la droite n'est pas seulement conservatrice, elle n'est pas seulement réactionnaire sur le plan social, elle est aussi et surtout anti-ouvrière. Sans que la droite n'exerce véritablement de pression sur Hollande. Il a repris la politique de Sarkozy. Alors qu'en sera-t-il quand la droite ou l'extrême droite se mettront en mouvement? Alors si les travailleurs ont une leçon à tirer de cette manifestation, c'est qu'ils doivent eux-mêmes se manifester. Les travailleurs doivent se faire entendre. Ils doivent occuper le terrain politique en faisant entendre leurs revendications. La droite. droite et le Parti socialiste représentent les mêmes intérêts. Ils jouent à s'opposer, mais ils constituent les deux faces de la même pièce. Et quand ils sont au pouvoir, eh bien, ils mènent la même politique. Et regardez ce qui se passe au Mali. Sarkozy avait eu sa guerre en Libye, eh bien, Hollande a la sienne au Mali. L'un et l'autre sont des serviteurs zélés de l'impérialisme français. Je sais bien que la population au Mali et nombre de travailleurs maliens immigrés en France ont été soulagés par l'intervention de l'armée française. Ils espèrent qu'elle les débarrassera de ces groupes de fanatiques. Et on peut les comprendre. Personne ne souhaite voir ces bandes d'intégristes imposer leurs lois. Le problème, c'est que l'armée française n'intervient pas pour ça. Bien sûr, le gouvernement jure qu'il n'est guidé que par la bonne cause. Comme toujours. Mais les grandes puissances ont toujours de bons prétextes pour intervenir. Il faut sauver la démocratie, il faut protéger les civils, il faut lutter contre le terrorisme, il faut combattre pour le droit des femmes. Mais en Afghanistan, il en est où le droit des femmes? Et en Libye, où en est-elle la démocratie? La réalité, c'est que derrière la guerre aux terroristes, ce sont les intérêts de la bourgeoisie française que le gouvernement veut protéger. Les intérêts d'Areva, qui exploite l'uranium au Niger, les intérêts de Total en Mauritanie, où il exploite, où on a découvert des zones pétrolifères et où le fer est exploité déjà depuis de longues années. Ces intérêts-là, c'est sûr, ils seront bien gardés. Quant à la population, rien ne dit que son sort changera, parce que c'est justement le pillage et l'exploitation par la France et les puissances impérialistes qui maintiennent l'Afrique dans la misère. Et c'est sur ce terreau-là que se développent les bandes armées. Le mal en Afrique, la France l'a fait. Et elle continue de le faire avec cette guerre. Et il n'y a pas à s'étonner que ce soit le Parti socialiste qui mène cette nouvelle guerre impérialiste. Il a toujours participé, il a toujours cautionné les guerres coloniales quand il n'en prenait pas directement la tête, comme ce fut le cas pour la guerre d'Algérie. Alors non, rien de bon ne peut sortir de cette guerre. Non à la guerre au Mali, troupes françaises hors d'Afrique. Le chômage, l'exploitation, les guerres, voilà l'avenir que l'on réserve à la jeunesse. Je sais qu'ici, il y a de jeunes rebelles. Je veux leur dire qu'ils ont toutes les raisons de ne pas accepter ce sort-là. Dans le passé, on a dit aux jeunes des classes populaires « Faites des études, passez des diplômes, vous aurez un bon travail. » Et sauf pour une toute petite minorité, la jeunesse travailleuse est ballottée de stage en stage, de mission d'intérim, en petit boulot, de petit boulot en petit boulot, et le tout entrecoupé de longues périodes de chômage. Combien de jeunes se disent, à 20 ans, 25 ans, qu'ils n'ont pas encore commencé leur vie? Quant aux jeunes qui font des études supérieures, ils peuvent peut-être espérer un emploi de cadre, d'ingénieur, de médecin ou d'enseignant. La société capitaliste leur offre peut-être un sort meilleur que celui qu'elle réserve aux jeunes des quartiers populaires. Et encore, il n'est qu'à voir tous ceux qui, bardés d'un master ou d'une thèse, se trouvent obligés de postuler des emplois sans rapport avec leurs qualifications. Et on les paiera grassement 1500 euros, si ce n'est moins. Mais le problème n'est pas seulement là. Le problème est collectif. Le problème, c'est que même ceux qui, dans cette société, peuvent tirer leur épingle du jeu, le font au milieu d'un océan de misère et d'injustice. C'est ce que disent bien des enseignants. C'est ce que disent bien des enseignants qui se sont engagés dans ce métier avec un idéal et qui constatent au quotidien que l'État les prive des moyens nécessaires pour transmettre correctement des connaissances aux élèves dont ils ont la charge. C'est ce que disent les médecins des hôpitaux, écœurés de la façon dont leurs services sont contraints de traiter leurs malades. C'est ce que disent bien des chercheurs, voire des cadres d'entreprise, à qui on avait fait miroiter la lune, et qui se rendent compte qu'ils ne sont que des rouages d'une grande mécanique à profit, toute prête à broyer. Alors, aux uns et aux autres, je veux dire qu'il y a un autre avenir. C'est celui des combats collectifs, de la révolte consciente. Il n'y a pas de cause plus noble que de s'engager dans l'activité pour transformer la société de fond en comble, afin qu'il n'y ait plus de privilèges et de privilégiés. Parce que la contrepartie de tout ça, c'est l'exploitation, l'oppression pour la majorité et tout un cortège d'arriération, du sexisme au racisme, en passant par la xénophobie, voire la guerre. Alors, ne laissez pas la politique à des politiciens professionnels qui en font une carrière personnelle, mais qui se moquent de la collectivité et de son avenir. Ne cédez pas au conformisme de la société, prenez part au combat pour l'émancipation sociale. Je vais finir comme j'ai commencé, en parlant du combat commun que les travailleurs de France et de Guadeloupe ont à mener. Parce que ce n'était pas seulement une formule de politesse ou d'entrée en matière. Malgré les 7000 km qui les séparent, les travailleurs des Antilles et de France sont intimement liés. Qui n'a pas un frère, une sœur, un oncle qui travaille à Paris, à Lyon ou dans une des grandes villes de France? Beaucoup d'entre vous même ont vécu des années en France pour étudier ou pour travailler et se sentent en France comme chez eux. Et puis, nous avons ce combat contre un gouvernement commun, contre un patronat qui bien souvent est le même. C'est pourquoi je suis convaincue que dans le combat contre l'exploitation, nous nous retrouverons côte à côte. Et dans le combat pour changer radicalement la société, nous nous retrouverons avec des travailleurs de bien d'autres pays encore. Car le capitalisme a fondu les peuples dans un sort commun. Et on ne pourra détruire la société capitaliste actuelle et créer une forme d'organisation sociale supérieure, la société communiste, qu'à l'échelle internationale. Lorsque le manifeste communiste affirma en 1847 sous la plume de Marx et d'Engels « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », ce n'était pas une prise de position morale ni l'expression de la seule fraternité ouvrière. Cela voulait dire que c'est seulement en unissant leurs forces à l'échelle du monde que les travailleurs peuvent combattre efficacement le capitalisme, exproprier la grande bourgeoisie, mettre les moyens de production à la disposition de toute la collectivité pour gérer en commun et de façon démocratique les richesses de la planète. Alors voilà, camarades, les perspectives des travailleurs, elles sont grandes, elles sont enthousiasmantes. À nous de les faire vivre parmi les travailleurs pour qu'elles deviennent une réalité.